Il devait aller consulter le prêtre pour savoir si c'était simplement une tache, comme on peut avoir des taches sur la peau, ou si c'était une amorce de lèpre. Et le prêtre, ici, donnait son verdict de telle sorte que si c'était simplement une tache, eh bien, il faisait un sacrifice pour la purification, et si c'était un lépreux, si c'était véritablement un lépreux, eh bien, le prêtre décrétait qu'il devait être mis à part de telle sorte qu'il ne touche rien, il ne touche à personne, il ne contamine pas le reste de la population. Et la loi de Moïse prévoyait que lorsque le lépreux serait guéri, on ne dit pas comment. C'est-à-dire que la loi de Moïse prévoyait, ou bien que, enfin les deux en même temps, que Dieu pouvait guérir miraculeusement des lépreux, puisqu'il n'y avait pas de, à cette époque-là, je ne sais pas si ça existe, s'il y a actuellement des thérapies pour les lépreux peut-être, mais en tout cas à l'époque il n'en avait pas, et en tout cas on dirait que c'est une loi qui de toute évidence a été faite pour le Christ, pour le temps du Christ. Lorsque le lépreux était guéri, il devait aller se présenter au prêtre, le prêtre devait faire une vérification et décréter, lui donner une sorte de certificat qu'il était guéri, qu'il était un lépreux guéri, donc un ex-lépreux, et il devait offrir un sacrifice de reconnaissance. Allez donc vous monter au prêtre, dit notre Seigneur, pour montrer que, en fait, en cela, il leur disait, vous allez être guéri, je vous promets que vous serez guéri, allez donc vous montrer au prêtre. Mais dans la Nouvelle Alliance, ces paroles de notre Seigneur ont toujours tout leur sens. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous disent les auteurs, ne veut nous guérir que par la voie hiérarchique. C'est-à-dire que les confesseurs ne sont pas des moyens dont on pourrait se passer. Et il y a ici une erreur que je relève de temps en temps, parce que c'est une chose importante dont nous devons être très conscients. Il y a une erreur, et si j'ose dire, si c'était simplement qu'une erreur passive, mais c'est une erreur qui est malheureusement parfois dans certains milieux propagée, qui consiste à dire que même s'il y a des prêtres, de toute façon, c'est la contrition parfaite qui donne l'absolution, qui obtient l'absolution, qui obtient l'absolution des péchés. Le prêtre n'est jamais là que d'une certaine manière pour repasser une couche de peinture. Donc on nous dit il faut s'efforcer d'avoir la contrition parfaite, la contrition parfaite c'est la clé du ciel, c'est vrai, tout ceci est vrai à strictement parler, ce n'est pas faux, mais c'est le ton sur lequel on dit. Lorsqu'on pourrait aller se confesser et qu'on dit finalement l'essentiel c'est d'avoir la contrition parfaite, alors je ne dis pas que ces gens-là le disent, mais enfin ils l'expriment d'une certaine manière que j'ai déjà entendu des nouveaux convertis, s'imaginer que c'était ou bien la contrition parfaite, ou alors, si on a le temps, si on a l'énergie, on prend sa voiture et on va se confesser. Parce que le prêtre est loin, mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on a la contrition parfaite. C'est faux. C'est faux. La contrition parfaite, bien sûr, il faut s'efforcer de l'avoir. Alors, qui peut savoir s'il l'a ? Seul un prêtre pourrait vous le dire. Mais la contrition parfaite, ça sert à recevoir le pardon des péchés, si Dieu veut, lorsqu'on est tout seul, perdu sur l'île déserte, sans aucune possibilité de se confesser, à vue humaine. S'il se trouvait qu'on avait eu la contrition parfaite et qu'un prêtre vient à débarquer sur notre île, il faut se confesser. Vous le savez très bien, c'est le béaba du catéchisme. Donc, vous voyez, il se trouve que, bien sûr, il faut avoir les dispositions pour pouvoir recevoir l'absolution. Si le prêtre ne voit pas que vous avez la contrition, la vraie contrition, contrition parfaite, il ne peut pas vous donner l'absolution, bien entendu, puisque sinon, il ne ferait que mettre un emplâtre sur une jambe de bois ou alors plus gravement, de faire un sacrilège. La seule chose, il se trouve donc que il est impossible que nous obtenions le pardon de Dieu si nous ne passons pas par la voie hiérarchique, en réalité. Parce que la voie hiérarchique, c'est pas, donc la confession, le sacrement de confession, c'est pas simplement le fait d'énumérer ses péchés et puis de s'attendre, un petit peu comme on met une pièce dans la fente, de s'attendre qu'il y ait une barre chocolatée qui tombe. On ne passe pas ses péchés au prêtre pour que lui vous passe l'absolution. Lorsque nous nous confessons, nous sommes face à un juge qui décrète ce qui lui semble juste. Donc, s'il nous donne l'absolution, s'il nous refuse l'absolution, de toute façon, nous n'avons rien à dire. Vous voyez ? Et nous n'avons surtout pas à aller chercher un autre confesseur qui va nous donner plus facilement l'absolution, sous prétexte que l'autre, il est complètement borné, et que c'est un prêtre obtus qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre, et qui ne comprend pas que nous avons, qui ne voit pas que nous avons la contrition parfaite, et qui ne connaît pas ça. Oh, attention ! Attention, attention. Si un prêtre est capable de vous dire « je ne pense pas que vous ayez la contrition parfaite », c'est qu'il est absolument impossible que vous l'ayez. Parce que si vous l'aviez vraiment, vous douteriez que vous l'ayez. Vous voyez ? Et c'est le prêtre qui, en vous donnant l'absolution, d'une certaine manière, autant qu'il peut en juger, estime que vous avez cette contrition. Tandis que si le prêtre refuse de vous la donner et que vous tambourinez contre la grille et que vous dites, bah, attendez, oh, moi je me connais bien, je sais très bien ce que mes sentiments, etc., ça montre non seulement que vous n'avez pas la contrition, vous n'avez même pas l'attrition, vous n'avez rien du tout, vous n'avez qu'un orgueil assez terrifiant. Et que cela n'arrive jamais, mes très chers frères, je prie pour cela, bien entendu, prions tous les uns pour les autres pour que cette horreur n'arrive jamais. Néanmoins, notre Seigneur leur dit, montrez-vous, allez, leur dit-il, montrez-vous au prêtre. Notre Seigneur, Dieu veut que l'on se soumette avant toute chose aux moyens ordinaires de salut, et il ne favorise jamais l'esprit d'indépendance et de singularité. Il se trouve donc que notre Seigneur veut nous guérir, c'est lui qui nous a donné le désir d'être guéri, c'est lui qui nous fait crier vers lui alors même que nous l'avons chassé de notre cœur parce que nous sommes en état de péché mortel, mais c'est quand même lui qui, par sa grâce prévenante, nous fait crier vers lui, bien entendu, il a pitié de nous, il a la miséricorde pour nous au-delà de ce qu'on peut imaginer, il nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer et qu'on peut même se figurer. Néanmoins, tout ceci ne se passe pas dans la subjectivité. La grâce prévenante n'est pas une grâce qui nous fait aller par les voies hasardeuses de la subjectivité. Allez vous montrer au prêtre. Il nous faut, mes très chers frères, prier pour les prêtres parce qu'ils doivent avoir acquis la science de la direction et les principes de la pénitence. Tout ceci vient du Saint-Esprit, mais tout ceci vient aussi ceci vient de la formation des prêtres et la formation à bonne école. Évidemment, ça dépend à quelle école on est formé, mais si on est formé à l'école des bons auteurs, des auteurs apostoliques, des vrais auteurs, par exemple de Saint-Charles Borromée ou d'autres, eh bien, de la même veine, eh bien, il se trouve qu'on a les principes de la pénitence, et alors, évidemment, il faut des lumières du Saint-Esprit pour pouvoir être un bon directeur, mais il se trouve qu'au moins, on a les bons principes. Vous voyez, malheureusement, faute de ces principes, malheureusement, ce ne sont plus que des aveugles, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les auteurs, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Le pénitent, le pécheur qui vient se confesser et qui tombe sur un prêtre pour lequel le péché n'est pas grand-chose, recevra très facilement l'absolution, et même, malheureusement, cela peut arriver, il recevra l'assurance que ce qu'il a fait n'est pas un péché. Cela peut arriver, malheureusement. Et on pourrait penser que les bons chrétiens, entendant de pareilles horreurs, s'éloignent avec horreur en disant « Oh, j'ai entendu des mauvais conseils, je dois être mal tombé, je vais trouver un bon prêtre. » Non, malheureusement, au début, on peut avoir une certaine inquiétude de conscience, et puis après on se dit « Mais finalement, ça m'arrange bien. » Et puis après tout, s'il le dit, c'est que ça m'arrange. Alors vous allez dire, est-ce qu'il y a des prêtres qui se comportent comme cela? Sans doute pas pour des péchés grossiers, mais pour des petites choses. Vous voyez, pour des petits actes d'orgueil, pour des petits actes de révolte, pour des petits mensonges, pour des petits vols, pour des etc. Il y a toujours un prêtre pour vous dire, d'une manière ou d'une autre, bien interprété, bien pensé, et sous un certain rapport dans l'état dans lequel on vit, et ceci et cela. Et finalement, vous arrivez que vous pouvez égorger votre prochain en vous disant que vous accomplissez la volonté de Dieu. Tout ceci n'est pas la bonne école, mes très chers frères. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et qui est des deux aveugles le plus responsable? Eh bien, c'est celui qui conduit l'autre et sans lequel peut-être l'autre aurait recouvré la vue et ne serait pas tombé dans la fosse. Pour beaucoup, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, un bon prêtre, c'est celui qui vous dit ce qu'on veut entendre. Je cherche un confesseur qui ne me casse pas les pieds et qui me donne l'absolution rapidement parce que je n'ai pas envie de passer pour un gros païen devant tout le monde quand je ne vais pas communier. Là, encore une fois, il y a quelque chose vraiment de dramatique dans l'économie actuelle du sacrement de pénitence, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, si quelqu'un ne communie pas, puisque Saint Pidis a exhorté tout le monde à communier très souvent, et si c'était possible, presque on communierait plusieurs fois par jour si c'était possible, d'ailleurs ça se voit, pas chez les catholiques, mais enfin, ça se voit chez d'autres, il se trouve donc que, on se dit, finalement, si je ne communie pas le plus grand nombre de fois possible, je perds mon temps à assister à la messe, et puis en même temps, puisque je perds mon temps, je vais regarder si les autres communient. Tout ceci ne nous regarde pas. Il y a d'excellents chrétiens qui communient une seule fois par an. Pourquoi? Parce que l'Église nous a fait le précepte de communier une seule fois par an. Et si c'est suffisant, c'est suffisant. voyez ? Quant à nous, nous ne devons pas nous imaginer que la communion est une sorte de drogue ou une sorte de nourriture naturaliste qui, sans laquelle eh bien, nous dépérissons ou nous devenons incapables de faire quoi que ce soit. Certes, la communion est une nourriture, sous un certain rapport, bien sûr, c'est la nourriture sacrée, c'est la manne qui vient du ciel, c'est le corps et le sang du Christ, bien entendu, qui nous donne de faire notre pèlerinage jusqu'à la vie éternelle. Mais si il nous semble que c'est simplement un complément alimentaire, alors nous nous trompons. Vous voyez, mes très chers frères, allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Montrez-vous aux prêtres pour que les prêtres vous examinent et qu'ils donnent la sentence qu'ils trouvent juste, qu'ils estiment juste en tant que président du tribunal auquel vous vous présentez. Il ne dit pas « allez vous monter aux prêtres pour les convaincre que vous êtes, que vous n'êtes pas si lépreux que ça et qu'ils vous donnent un certificat de guérison alors que vous êtes encore à moitié malade ». Les prêtres donc qui laissent entendre à chacun ce qu'il veut entendre sont ou bien de mauvais prêtres, ou alors ce sont des prêtres qui sont intimidés. Il n'y a pas beaucoup de mauvais prêtres, bien entendu, mais il y a souvent des prêtres intimidés. C'est-à-dire que ce sont des prêtres qui ont peur de déplaire, ils ont donc peur de faire leur office parce qu'ils ont peur de déplaire, et comme la plupart du temps ils sont dans des situations très précaires, ils ont peur aussi, et ce n'est pas une pierre que je jette aux prêtres, mais plutôt aux fidèles, ils ont peur de tomber dans la misère faute de fidèles. Ils se disent, mais finalement, si je ne dis pas aux fidèles ce qu'ils veulent entendre, ou ce qu'ils sont disposés à entendre, ils vont me quitter, ils vont aller dans d'autres chapelles, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais tomber dans la misère. C'est une tentation. C'est une tentation. Eh bien, il faut savoir que le prêtre sera aidé et secouru par Dieu s'il fait son office d'une façon fidèle, et il est aussi fort probable que Dieu inspirera aux fidèles de venir auprès de ce prêtre, et de l'écouter dans la mesure où il sera véritablement un prêtre fidèle et non pas un prêtre timoré qui ne cherche qu'à plaire aux fidèles pour éviter de les écarter de lui. Vous voyez, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire en tant que prêtre, faites votre office de prêtre et dirigez-vous selon les principes que vous avez appris et qui sont les bons principes de l'Église qui nous viennent des apôtres, et tout le reste vous sera donné par surcroît, n'ayez pas peur de déplaire aux hommes, dans la mesure où vous exercez votre ministère avec la charité, évidemment, et sans grossièreté, mais n'ayez pas peur de déplaire aux hommes, parce que Dieu prendra soin de vous. Voilà ce qu'il faut dire aux prêtres et aux fidèles. Il y a donc une grande stérilité dans un ministère au tribunal de la pénitence, un ministère qui serait laxiste, il y a une grande stérilité qui tourne à la condamnation du prêtre, puisque finalement, il pousse à l'arrogance les fidèles, l'arrogance envers Dieu, de peur de passer pour des démoralisateurs. Alors, pas simplement pour les péchés, il y a certains péchés dont personne ne doute que le prêtre doive parler durement, mais il y a d'autres péchés qui sont plus subtils et qui, du coup, font passer les prêtres pour de graves démoralisateurs du peuple catholique. Les péchés contre le 6e et 9e commandement, personne ne doute qu'aucun prêtre ne peut être trop dur contre eux, bien entendu. Mais d'une certaine manière, il n'implique pas grand monde. Tandis que, d'une certaine manière, lorsque le prêtre vous fait remarquer que vous sortez de votre devoir d'État en faisant un soi-disant apostolat qui n'a rien de missionné, qui est totalement en dehors de toute mission, de toute hiérarchie, etc., tout d'un coup, vous passez pour un démolisseur du peuple catholique, vous passez pour un démoralisateur des troupes, vous passez pour quelqu'un qui, éventuellement, est un infiltré, une sorte de franc-maçon infiltré pour détruire l'Église, ce qui est quand même abusif. Voyez, car le prêtre doit pouvoir dire librement ce qui est la vérité, et les fidèles doivent pouvoir humblement écouter cette vérité et réformer leur vie, même s'ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues auparavant. Sachant que si le prêtre ne leur dit pas ces choses-là, non seulement ils vont se damner parce qu'ils font, en faisant n'importe quoi, ils déplaisent à Dieu, et donc ils ne sauvent certainement pas leur prochain, mais ils le précipitent dans la géhenne, et non seulement ça, mais le prêtre, s'il ne leur dit pas, c'est lui-même qui ira en enfer. Donc le prêtre qui n'ose pas dire aux militants qu'il pêche parce qu'il usurpe des fonctions qui ne sont pas les siennes, finira, que Dieu le garde bien entendu, par en enfer, retrouver en enfer le même militant, et le militant va être étonné parce qu'il s'imaginera que le prêtre l'aura encouragé, alors que le prêtre n'aura jamais osé lui mettre des bornes à son arrogance, et les deux se retrouveront pour diverses raisons dans le même lieu où l'on termine lorsqu'on déplaît à Dieu. Que Dieu nous garde, mes très chers frères, que Dieu nous sauve tous, et que tous nous puissions faire pénitence. Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Donc, prions pour les prêtres, de telle sorte qu'ils osent, avec une sainte liberté, faire remplir leur mission et guider les âmes vers le ciel. Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à pleine voix, et il se jeta le visage contre terre, aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il n'en s'en est trouvé aucun pour revenir et rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. » Et il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le monde, nous dit un moraliste, le monde est plein de gens qui élèvent dans l'Église leur voix pour demander des grâces et qui demeurent muets quand ils les ont reçues. Quelle reconnaissance ne doivent donc point à Dieu ceux qu'il a guéris tant de fois d'une infinité de péchés. Écoutez ce que dit saint Bernard. Il dit quelque chose de fondamental sur la reconnaissance et l'ingratitude. Saint Bernard dit ceci, « Il n'est pas mauvais de demander ses besoins avec instance. Il n'est pas mauvais de crier à Dieu de toutes ses forces, de tambouriner à la porte du ciel, de frapper à la porte du ciel et d'être le plus important possible pour attirer l'attention de Dieu. Il n'est pas mauvais, dit-il, de demander ses besoins à Dieu avec instance. Mais notre ingratitude est cause que nos demandes sont inutiles. Notre ingratitude est cause que nos demandes sont inutiles. Vous voyez, lorsque nous demandons à Dieu et que nous n'obtenons pas, c'est bien souvent parce que Dieu voit dans notre cœur le germe de l'ingratitude et tout ce qu'il peut, d'une certaine manière, nous donner, ce sont des petites grâces qui sont des grâces très générales, qu'il pourrait éventuellement donner à un païen, mais il ne peut pas nous donner sa grande grâce de peur qu'elle soit profanée, la plupart du temps. Mais notre ingratitude est cause que nos demandes sont inutiles, dit saint Bernard. L'ingratitude est une peste, dit-il. C'est l'adversaire de la grâce. C'est l'ennemi, c'est toujours saint Bernard qui parle, c'est l'ennemi du salut. Rien ne déplaît tant à Dieu, principalement dans les enfants de la grâce. Dit saint Bernard. Nous devons demander à Dieu avec humilité et à grands cris. Et nous devons être reconnaissants envers Dieu, spécialement lorsqu'il nous donne ce que nous demandons, bien entendu, mais nous devons avoir les dispositions de reconnaissance. Vous voyez, imaginez que les lépreux aient dit à notre Seigneur, oui, mais vous savez, dans la loi, on connaît quand même notre catéchisme, on connaît la loi, dans la loi, il est dit que nous devons aller nous présenter au prêtre, que dans la mesure où nous avons été guéris. Or, de toute évidence, vous ne nous guérissez pas, donc nous n'allons pas faire cette œuvre de témérité d'aller nous présenter au prêtre, pour être soi-disant que nous sommes guéris, alors que vous n'avez pas encore guéri. Alors, s'il vous plaît, guérissez-nous d'abord, parce qu'il faut faire les choses selon l'ordre. Imaginez que les lépreux aient parlé comme cela à notre Seigneur. Vous allez dire, oui, mais vous délirez. Hein, attendez, ces lépreux devaient être un peu militants, ils devaient bien connaître leur Moïse, si j'ose dire, pour ne pas dire leur saint Thomas, et ils devaient savoir exactement, ils savaient mieux. Ils savaient mieux que notre Seigneur. Les militants, c'est toujours mieux que notre Seigneur, puisque de toute façon, s'ils ne savaient pas mieux que notre Seigneur, il ne serait pas là en train de sortir notre Seigneur du pétrin dans lequel il s'est embourbé tout seul. Hein, ça, c'est bien connu. Donc, il sait mieux que notre Seigneur. Et donc, imaginez quelle aurait été l'attitude de notre Seigneur leur aurait dit, dans ces conditions, je ne peux pas vous guérir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à notre Seigneur. Ils ont obéi parce qu'ils savaient que tout ce que notre Seigneur demande est un ordre et que ces ordres sont bienveillants. Allez vous montrer au prêtre, signifiez, je vous guérirai, faites un pas de foi et vous verrez que vous serez guéri. Et quand ils furent guéris, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à pleine voix. Les auteurs nous disent qu'il est probablement allé se présenter au prêtre, et il est revenu. Nous ne nous imaginons pas qu'il a court-circuité le prêtre. Les auteurs nous disent que l'Évangile ne s'intéresse pas tellement à la suite de l'histoire, mais plutôt à l'attitude de reconnaissante de cet unique Samaritain. Il est revenu, se voyant guéri, il est revenu, glorifiant Dieu à pleine voix. Donc il y a un parallèle entre la haute voix avec laquelle il a demandé au Seigneur d'avoir pitié de lui, et la haute voix de sa reconnaissance. Vous comprenez pourquoi saint Bernard dit que l'ingratitude est une peste, elle est l'ennemi du salut. Alors vous allez dire, mais comment pratiquer la gratitude? Eh bien, je vous donnerai 5 conseils, on pourrait en donner plus, on pourrait en donner moins, je vous donnerai 5 conseils pour pratiquer la gratitude. Premièrement, en nous humiliant devant Dieu, sans lequel nous ne pouvons rien. C'est-à-dire qu'il faut en tout temps, que ce soit avant ou après le pardon, avant ou après la guérison, il nous faut nous humilier devant Dieu en disant « Seigneur, de toute façon, sans vous, je ne peux rien ». La gratitude se fonde sur la conscience que nous devons tout à Dieu parce que nous ne pouvons rien nous devoir à nous-mêmes, nous ne pouvons rien devoir à nous-mêmes en quelque manière que ce soit. Il y a donc un fondement de la gratitude qui est la conscience de l'humilité qui vient de la conscience de notre impuissance, en nous humiliant donc devant Dieu sans lequel nous ne pouvons rien. Deuxièmement, deuxième conseil, en lui rendant la gloire qui lui est due, c'est-à-dire en le louant et en élevant nos cœurs vers lui par la louange. Nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, mais combien de fois louons-nous Dieu gratuitement pour ce qu'il est? Nous le louons d'une façon mesquine, et encore nous le louons, le louer d'une façon mesquine, c'est finalement c'est condamné à ne jamais le louer. Nous le louons dans la mesure où nous estimons qu'il est louable. Et nous estimons qu'il est louable dans la mesure où il nous a explicitement exaucé les vœux que nous avons faits envers Dieu tels que nous les avons formulés. C'est pour cela que nous ne le remercions jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne nous exauce jamais. Puisque nous demandons, mais nous demandons pour satisfaire notre propre concupiscence. Donc nous devons le louer parce qu'il est le seul Dieu, parce qu'il est grand, parce qu'il est riche en miséricorde, parce qu'il est lent à la patience, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Combien de fois disons-nous à Dieu, Seigneur, vous êtes bon, vous êtes miséricordieux, vous êtes lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde. Nous disons plutôt au Seigneur, donnez-moi ce que je veux, pour que je puisse m'en aller. Donnez-moi ma part d'héritage et fichez-moi la paix. Il nous faut, donc, si nous voulons être reconnaissants, il nous faut avoir l'habitude, si j'ose dire l'habitus, inscrit dans notre nature, comme une seconde nature, de louer Dieu et de le remercier en tout temps, spécialement lorsqu'il n'y a pas grand-chose à lui remercier, nous n'avons pas grand-chose à le remercier, pas grand sujet de le remercier, vous voyez, d'une façon précise. Nous devons donc remercier Dieu constamment et lui rendre la gloire qui lui est due, de telle sorte qu'au moment où il nous exaucera d'une façon particulière, nous ayons ce réflexe, comme spontané, naturellement spontané, de lui rendre la gloire qui lui est due. Troisièmement, en demeurant humble, c'est-à-dire, une fois que nous avons reçu les grâces et que nous avons remercié, il nous faut demeurer humble. Parce que la reconnaissance, c'est beaucoup plus que le fait de dire merci. C'est le fait de se maintenir dans une disposition où nous pouvons recevoir encore des grâces. Or, mes très chers frères, bien souvent, il se trouve que nous recevons des grâces, nous remercions, jusque-là c'est déjà presque un tour de force parce que c'est très rare, nous remercions, mais l'adversité vient, parce qu'il faut quand même continuer à vivre, si j'ose dire, et il se trouve que nous voyons d'autres personnes qui ont reçu des grâces plus grandes que nous, nous voyons que finalement les grâces de Dieu ne sont pas sans être accompagnées d'une certaine adversité qui est censée les faire prospérer, un petit peu comme quand on achète un couteau, on nous donne aussi une pierre. Mais pourquoi? Pas pour embêter le couteau, mais parce que le couteau va s'émousser et la pierre permettra de le rendre tranchant à nouveau. Si vous dites, ah ben non, je veux le couteau bien tranchant, mais pas la pierre. La pierre, évidemment, c'est pas avec la pierre que vous allez couper, mais c'est grâce à la pierre que le couteau va être tranchant. Vous dites au bon Dieu, donnez-moi l'humilité, donnez-moi la patience, donnez-moi l'humilité. Et il vous donne un sentiment qui fait que vous vous humiliez devant Dieu. Et il y a un frère qui passe à côté de vous, qui vous prend de haut. Alors vous allez dire, oh, quand même, qu'est-ce que c'est cette manière de faire? On est chrétiens tous les deux, on communie au même sacrement. Attendez, c'est la pierre. Vous êtes humilié devant Dieu, mais d'une certaine manière, ce n'est pas très difficile. C'est le bon sens de s'humilier devant Dieu. Maintenant, vous humiliez devant votre frère, vous laissez humilier par une remarque désobligeante ou par une remarque vexante, voulue ou pas, de votre frère. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, ça c'est la continuation de la gratitude. Alors vous allez dire, je ne vais pas remercier Dieu pour une humiliation. Mais si, justement, puisque vous l'avez remercié parce que vous lui demandiez d'être humble, remerciez-le parce qu'il vous donne la possibilité de parfaire cette humilité. Vous voyez, ne pas être envieux des grâces d'autrui, ne pas récriminer contre l'adversité, c'est cela aussi, continuer la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas simplement quand on vous donne un cadeau et on dit « merci beaucoup pour ce que vous m'avez donné », c'est une vie de reconnaissance. Il y a plus de comparaison entre quelqu'un auquel on a sauvé la vie et qui devient votre ami et qui toute votre vie, à chaque fois que vous le voyez, lui vous dit vraiment « merci parce que sans vous, je ne serais pas en vie », il y a plus, la reconnaissance que nous avons envers Dieu tient plus de cet exemple-là que de la reconnaissance qu'on a envers simplement quelqu'un qui vous donne, il vous donne quelque chose, il vous donne, je sais pas, un biscuit, et vous lui dites merci parce que vous êtes poli. C'est une forme de reconnaissance, bien sûr, mais elle est très limitée dans le temps, elle est bornée. Donc la troisième façon d'être reconnaissant, c'est de cultiver la reconnaissance en ne récriminant pas contre l'adversité. À ne pas chercher à, non plus aussi à briller comme modèle pour les autres. Vous voyez, je suis reconnaissant envers Dieu et il se trouve que je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus et il se trouve que je suis tellement reconnaissant envers Dieu que le publicain pourrait bien, au lieu de je ne sais pas trop ce qu'il fabrique avec sa poitrine et, son poing, il ferait mieux de me regarder et de prendre exemple. Ce n'est pas être reconnaissant à Dieu que de se glorifier de sa reconnaissance. La reconnaissance est une attitude d'humilité envers Dieu. Merci mon Dieu pour ce que vous avez fait pour moi. Merci, vous m'envoyez une adversité. Merci encore mon Dieu. Merci toujours. Vous voyez ? Et nous allons effectivement être des modèles de reconnaissance. Mais on sait très bien que les meilleurs modèles sont ceux qui ne savent pas qu'ils sont des modèles. Sinon, ce sont des vaniteux qui détournent la piété des gens. Vous savez, quand un chrétien qui communie avec ostentation, avec une grande ferveur, etc., et puis qui regarde du coin de l'œil si les gens le regardent, vous avez plutôt envie de ne pas communier ce jour-là. Pourquoi ? Parce que vous dites, si c'est se donner en spectacle de cette manière-là, je préfère encore communier spirituellement. Vous voyez ? Mais celui qui aime Dieu de tout son cœur et qui va dans la plus grande simplicité communier et qui ne se donne pas en spectacle, peut-être sera un modèle de belle et de bonne communion. Donc vous voyez, pour être reconnaissant, il faut poursuivre aussi la reconnaissance. Quatrièmement, il faut toujours être au pied de notre Seigneur pour lui demander la persévérance. Ce n'est pas le tout de dire à Dieu « Merci mon Dieu », même tout le long de sa vie « Merci mon Dieu pour ce que vous avez fait ». Il faut dire « Seigneur, surtout, continuez à me donner votre grâce de telle sorte que je continue dans cette reconnaissance jusqu'à la fin ». Oui, il faut demander la grâce de la persévérance. Et certains demandent la grâce de la persévérance, sinon comme un dû, du moins comme quelque chose dont ils ont besoin pour continuer leur petite vie et mourir en état de grâce. Ce n'est pas cela, ce n'est pas la bonne façon. Il faut demander la grâce de la persévérance avec la certitude, en baignant cette prière, dans la certitude que Dieu nous la donnera dans la mesure où nous continuerons à entretenir cette reconnaissance envers Dieu qui est fondée dans l'humilité. Et la persévérance et l'acceptation de tout ce qui semble être un étouffoir à la reconnaissance. Et enfin, un dernier conseil, veillez à ne pas retomber dans le péché, mais à croître dans la justice. Ça, évidemment, ça demande, bien sûr, des fois on tombe, souvent on tombe, il ne faut jamais se désespérer, bien entendu. Mais enfin, la plus grande marque de reconnaissance que nous pouvons manifester envers Dieu, c'est de ne pas abuser de ses grâces. Alors, Dieu merci, il y a le sacrement de pénitence, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en éloigner avec horreur pour l'utiliser le moins possible. Ce n'est pas cela, il faut l'utiliser autant que c'est nécessaire. Mais, quand même, lorsque Dieu nous a guéris de la lèpre, on manifeste la reconnaissance quand on évite de fréquenter les lépreux et de se vautrer dans ses anciens vêtements de lépreux. Mes très chers frères, nous pourrions encore dire beaucoup de choses. Restons simplement avec ces quelques considérations pratiques et disons de tout notre cœur les paroles mêmes de l'offertoire que nous allons entendre dans un instant. « Je me confie en vous, Seigneur, je dis, c'est vous qui êtes mon Dieu, mes jours sont entre vos mains. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.